notre invité.
Yes, sir.
On va parler de tout ce qui s'appelle fiscalité, parce que tu sais que tout est dans la mire du fisc, hein?
Tout.
Tout est dans la mire du fisc. Cette année, l'an prochain, dans deux ans, toi, t'es jeune, t'as 22 ans?
Oui, moi,
moi. Toi, ton poids fiscal va... Toi, tu sais, moi, j'ai 55 ans, là.
Mm-hmm.
J'ai donné, j'en ai donné beaucoup.
T'as payé en masse.
J'en ai donné, j'en donne encore beaucoup, en passant.
Ben, t'en donnes plus que moi, là.
Oh, oui, j'en donne pour en donner, là. Tu sais, on en donne pas mal. Mais là, on dit que dans les prochaines années, le gouvernement a identifié des cibles fiscales comme ça. Les plaques d'immatriculation, c'est une chose. Mais t'as vu les taxes sur l'assurance aussi? On augmente la TVQ. Madame Fréchette, t'es pas au courant de ça? 1er janvien, ça s'en vient?
Fun, ça.
Nicolas Gagnon, on va parler avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, on n'a pas fini de payer, là.
Non, effectivement, ça ne fait que commencer. Puis c'est bon que vous preniez le temps de le rappeler, effectivement. Là, c'est le texte de Michel Girard qui revient un peu là-dessus ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Puis c'est vrai qu'au final, on avait vu des petites mesures qui avaient été annoncées récemment, l'abolition de la TVQ sur certains produits d'épicerie.
Oui.
Ou sinon la baisse de 50$ sur les frais d'immatriculation. Mais ce que le gouvernement donne d'une main, il vient reprendre avec l'autre essentiellement. Puis ça couvre un paquet de produits là, ou d'un paquet de différents produits fiscaux. Ça peut être autant la hausse de la TVQ sur les primes d'assurance qui s'en vient le 1er janvier prochain, ou sinon, c'est un paquet de contributions qui s'en viennent. Si vous avez une voiture électrique à partir de janvier prochain...
Ah, c'est capoté, ça. Oui, ça, c'est capoté, là.
C'est ça, on vient chercher, juste pour les voitures électriques, c'est 125$ par année qu'on vient chercher. C'est une contribution annuelle qui a été fixée dans le dernier budget. Même chose pour les voitures hybrides rechargeables. C'est 62,50 par année qui s'en vient en contribution.
Faut compenser pour le gaz.
Ben, exactement.
Oui, mais surtout l'entretien des routes, là, parce qu'une voiture électrique est très lourde. Et ça scrape le réseau routier. Plus rapide.
Exact. Mais dans tous les cas, c'est dans une perspective de on va aller collecter moins de revenus sur les taxes sur l'essence, inévitablement à cause de la transition vers des voitures électriques. Donc, comment on fait pour aller chercher des revenus qu'on ne va pas chercher sur l'essence? On va aller chercher directement sur les contributions ou sur les permis d'immatriculation. Sinon, il y a encore même des discussions sur l'éventuelle mise en place d'une taxe kilométrique. C'est pas encore dans les cartons, mais on sait que ça a été dans les discussions quand même.
Mais c'est évoqué par les villes. En fait, c'est ce que le gouvernement permettrait aux villes, hein. On a transféré des pouvoirs aux villes, aux municipalités. Puis là, les municipalités regardent tout ce qui est possible pour venir vous tondre comme il faut, là.
Ben, exactement. On avait le ministère de l'Énergie puis le ministère des Transports qu'on se rappelle. Je pense que la nouvelle était sortie au lendemain des élections de 2022 où est-ce qu'on apprenait que finalement, c'est pas juste Québec solidaire qui parlait de taxe orange. On avait aussi la CAQ qui, dont son gouvernement avait commandé des rapports dont sur la taxe kilométrique. Donc, ce genre de choses-là, il faut s'attendre à ce que ça revienne éventuellement, peut-être à moyen, long terme. Mais sinon, toutes les mesures dont on vient de discuter présentement, c'est parti un peu de la stratégie d'Éric Girard, où est-ce qu'on se rappelle l'année dernière, au lendemain d'un déficit qui était assez monstrueux. Bon, ça a été révisé à la baisse, mais il en reste que c'était le pire déficit qu'on avait vu depuis longtemps. Il nous promettait quand même une amélioration de ce qu'on appelle du régime fiscal. Plusieurs d'entre nous ont été un petit peu trop optimistes. On se disait, s'il veut améliorer le régime fiscal, le rendre plus souple, le rendre moins lourd d'un point de vue bureaucratique ou de remettre les règles plus simples, tant mieux. Mais finalement, l'amélioration du régime fiscal, c'est aller chercher de l'argent, encore plus d'argent dans nos poches en trouvant des petits ajustements. Exactement. Puis on le voit très bien avec justement ce qui s'en vient pour les voitures électriques, les primes d'assurance. D'ailleurs, les primes d'assurance, juste en augmentant de même pas un point de pourcentage, ça va quand même nous coûter 11$ de plus par année juste pour assumer le minimum d'obligations pour pouvoir utiliser nos véhicules. Donc bref, finalement, on n'a pas eu vraiment de véritables cadeaux fiscaux depuis un moment, puis ça va pas s'améliorer.
Et t'avais le bouclier fiscal aussi qui était aboli là, au 1er janvier. T'avais une espèce de bouclier là, anti-inflation. Là. Ils nous avaient sorti ça à un moment donné. Et c'était 140 000 ménages, en tout cas personnes ou ménages là, qui bénéficiaient de ça. Ça a été aboli aussi.
Oui, ça s'est aboli depuis le 1er janvier dernier. Là, c'est la suppression d'un crédit d'impôt qui était destiné aux travailleurs à faible revenu. Mine de rien, là, la disparition du crédit d'impôt pour ces gens-là, c'est quand même 244$ en moyenne par année. par bénéficiaire qui va être perdu, donc ou qui va rester dans les poches du gouvernement parce qu'on refuse de donner un crédit à des gens qui, effectivement, à cause de l'inflation, sont un peu plus en difficulté. En fait, l'inflation affecte beaucoup plus les gens à faible revenu, entendons-nous là-dessus. C'est ça, c'est des mesures comme ça qui sont un peu ridicules, mais sinon, moi, ce que j'avais vu passer, puis ça m'a quand même surpris, c'est la hausse de la taxe sur les services publics, la TSP, qui refile aux entreprises. Ça, à compter de 2027, on va augmenter, dans le fond, la taxe payée par les réseaux par les réseaux d'électricité, de gaz et de télécommunications. Ça a l'air de rien comme ça, mais au cours des 4 prochaines années, dans les poches des entreprises, on va aller chercher 373 millions de dollars de plus. Puis là, on s'entend que si on refile une augmentation de taxes aux entreprises, ça se peut que ça se reflète sur les factures des consommateurs.
Je sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une équation directe, là.
Exactement. Donc, dans tous les cas, on peut s'attendre à ce que ça ait un impact, ne serait-ce qu'à quelque part sur nos factures. C'est ça, c'est quand même assez ridicule. Mais au final, l'ensemble de ces impacts-là, c'est vraiment pour maximiser les revenus du gouvernement. Donc, je pense que si on regarde sur les 4 prochaines années, on parle de 1,27 milliard de dollars de plus que le gouvernement va aller chercher dans nos poches par différents moyens, différents ajustements. C'est ça l'amélioration du régime fiscal d'Éric Girard.
Oui, puis tu sais, tu regardes là, peut-être 10 ans, même avant ça, c'était quoi? 100 milliards le budget du Québec? Il est rendu à 160, 165, 170 milliards. Ça, c'est de l'argent qu'ils sont venus chercher davantage dans nos poches, là.
Ben oui, inévitablement. Là, je comparais, par exemple, les revenus au niveau de l'imposition sur le revenu. Le gouvernement allait chercher environ là, 30 milliards de dollars dans nos poches en 2018-2019. Versus cette année, il vient chercher 51 milliards dans nos poches. Ça a l'air de rien, là, mais en pas loin de quoi 8 ans, c'est 20 milliards de plus qu'on paye en impôts sur le revenu au Québec. On s'entend que inévitablement, l'inflation a poussé les salaires. Les salaires, on contribue davantage. Il y a aussi une croissance générale des revenus au Québec.
2018, Nicolas, 2018, c'était 100 milliards le budget du Québec. 2026-2027, 167 milliards.
Oui, c'est énorme. C'est presque 70 milliards de plus. C'est une augmentation de 70% du budget québécois en 8 ans. Là, pas en 10 ans, en 8 ans. Puis même ça avait été sur 10 ans, c'est quand même dur de dire que finalement le budget augmente en moyenne de 10% par année. Là, c'est ce qui est jamais vu, ce qui est bien au-delà de l'inflation. Mais ça démontre que malgré l'augmentation des dépenses du gouvernement et l'argent qu'on vient chercher davantage dans les poches des gens via soit l'impôt sur le revenu ou les taxes à la consommation, bref, dans tous les cas, on n'a pas vraiment vu d'amélioration dans la qualité des services. On voit encore des déficits majeurs au niveau de l'entretien de nos infrastructures. L'état des routes du Québec, c'est toujours extrêmement risible. Mais on n'a jamais payé autant d'impôts, jamais payé autant de taxes, puis le gouvernement n'a jamais autant dépensé d'argent.
Ouais,
il doit avoir un problème là-dedans. Là.
Et là, j'ai vu la CNESST, les cotisations vont monter l'an prochain, et c'est salé. Là. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, là. C'est une coupe, je pense, c'est 10-11 ça se peut-tu? Plusieurs pourcentages. Et ça fait en sorte que ça, c'est sur notre facture. L'employeur va venir chercher de l'argent dans les poches aussi. Il faut qu'il paye à CNESST.
Effectivement. Puis ça, je n'avais pas vu passer directement, mais ça fait partie de toutes les charges à la source qui sont ajustées, comme on sait, à chaque année. Là, chaque 1er janvier, on a aussi l'augmentation des charges comme le RRQ ou l'assurance emploi qui sont révisées à la hausse. Ce qui est assez particulier parce que cette année, l'écart entre le régime des rentes du Québec au niveau de la cotisation annuelle versus la cotisation RPC, donc au régime de pension canadien, vient de s'agrandir parce que le gouvernement canadien vient de réviser à la baisse le taux de cotisation pour le RPC. Donc finalement, on cotise plus pour notre retraite au Québec finalement cette année.
La RRQ, là, hein? C'est le régime des rentes du Québec?
Exactement, par rapport au taux du RPC, parce que nous, on cotise pas au régime de pension, mais bien au régime des rentes du Québec, tout simplement. Parce que c'est un ou l'autre, mais dans le reste que il y a un écart qui est de plus en plus important qui fait en sorte que les Canadiens cotisent un peu moins, ils gardent plus d'argent dans leur poche pour leur propre retraite, ou du moins pour leur propre choix financier que les Québécois, parce que nous, on n'a pas d'ajustement à la baisse du RRQ. Là.
Tu vois, là, la CNESST, c'est 1,54 $, ça va passer à 1,71 $ par tranche de 100 $ de masse salariale.
Ça n'a rien, mais c'est une augmentation de quoi, à peu près un peu moins de 10 %, mais il n'en reste que ça va paraître à la fin de l'année. Là, quand on prend les montants totaux, je ne sais pas, je n'ai pas le montant exact devant moi. Qu'est-ce qui est cotisé par année?
C'est 400 millions de plus pour les employeurs au Québec. J'ai l'impression que ça va avoir un impact parce que si tu payes 400 millions de plus de cotisations, il faut que tu te revives et tu montes tes prix, là.
Ben oui, exactement. Donc, encore une fois, ça va être un poids supplémentaire sur le dos des entreprises qui va être filé aux consommateurs.
Bon, SAQ, on a compris que la SAQ, là, l'idée de retirer les bouteilles de vin et de whisky américain, ben ça a un coût à ça, là.
Oui, ben on a fait une demande d'accès à l'information de notre côté parce qu'on avait appris, en fait, en décembre dernier, que, dans le fond, le coût du retrait des produits américains depuis mars 2025, c'est environ 1,2 million de dollars. Puis après ça, on a appris que LCBO, donc l'équivalent de la SAQ en Ontario, avait fait le même exercice. Et finalement, on se rendait compte que ça leur avait coûté quand même pas loin de 2 millions de dollars. Donc, on a fait une demande d'accès à l'information pour savoir finalement, entre mars 2025 et mars 2026, sur un an, ça allait coûter combien. La SAQ nous a confirmé que jusqu'à ce jour, ça coûtait pas loin de 2,3 millions de dollars.
Ça, c'est juste pour entreposer les bouteilles, là. C'est pas la perte de stock d'inventaire, là, hein? C'est ça?
Non, exactement. C'est vraiment pour l'entretien, la manutention, puis pour, dans le fond, toute l'opération du retrait des bouteilles puis leur entreposage actuel. Donc, aussi avec la part de l'opération, où est-ce qu'on donne certains produits, comme à la Banque alimentaire de Montréal, par exemple, parce que c'est des produits qui sont peut-être sur le point d'expirer.
Ouais.
On parle quand même de pas loin de 27 millions de dollars de produits américains qui ont été retirés l'an dernier parce que, bon, on fait absolument bomber le torse contre les Américains dans le contexte des tensions commerciales avec Trump. Mais c'est ça, c'est 27 millions de dollars de produits qui dorment présentement dans les entrepôts. Et on a trouvé le moyen de dépenser donc 2,3 millions de dollars pour justement cette opération-là. Donc, c'est quand même fou parce que les produits américains, il faut se le rappeler, ont déjà été achetés.
Ouais.
Puis là, on les met dans un entrepôt puis on paye pour ne pas les vendre. Donc, c'est
complètement... C'est capoté. Puis là, on perd de l'inventaire parce que là, il y a de l'inventaire qui arrive à terme. Fait qu'on donne ça à des associations. Écoute, la Fédération canadienne des contribuables, elle pourrait recevoir ça si vous faites un 5 à 7, là, vous pourriez recevoir des bouteilles de vin de la SAQ.
Oui, mais ça serait
malade, ça.
Ça serait le fun, mais c'est contre nos convictions parce qu'on dit que c'est quand même payé par les contribuables.
Ben oui,
donc on le refuserait. Mais dans les circonstances, c'est ça. Il y a des organismes qui reçoivent des bouteilles comme telles. En fait, la SAQ était obligée de remettre sur les étagères pas loin de 8,6 millions de dollars en produits américains sur les 27 millions qui ont été retirés, justement parce que c'est des produits qui arrivaient proches de la date de péremption. Le seul problème, bien sûr, c'est que, entendons-nous, c'est des produits qui sont vendus moins cher que ce qui aurait pu être vendu initialement parce qu'on arrive de plus en plus proche de la deadline. Mais en plus, c'est quand même des pertes au final parce que la marge de profit est moins intéressante. Moi, ce qu'il faut rappeler de notre côté, puis je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé en disant, vous auriez fait quoi si c'est pour tenir tête aux Américains? Là, ça aurait été quoi la stratégie? Je pense que la stratégie la plus intelligente, à la limite, mettons qu'on veut rester dans cette dynamique.
Tu liquides le stock, ses inventaires, puis tu dis, on ne recommandera pas tout de suite.
Exactement.
Moi, j'aurais fait ça. J'aurais dit, gars, on va vendre les stocks, ça les inventaires, là. Profitez-en, là, parce que le temps qu'on va avoir un litige, on va se tenir tranquille ces commandes de whisky puis de vin américain. Le temps qu'on règle notre affaire, après ça, on recommandera, là.
C'est exactement ça. C'est exactement la solution qui aurait dû être préconisée. C'est de liquider les stocks, puis si jamais on veut effectivement faire un genre de. On bombe le torse, qu'on démontre qu'on veut rien savoir des Américains, mais on peut remplacer ces produits-là par des produits locaux, des produits européens.
Ouais.
Ça aurait très bien pu se faire, puis ça aurait pu se faire donc à coût nul. Parce qu'il faut rappeler une chose, les sociétés d'État comme la SAQ, leur but ultimement, c'est de maximiser le rendement. Pourquoi? Parce que les dividendes sont versés directement au gouvernement du Québec pour payer les infrastructures, la santé, les services sociaux. Donc, de dire qu'on a perdu 2,3 millions de dollars et qu'on refuse de vendre 27 millions de dollars en stock, c'est ridicule. Surtout que quand on regarde les dividendes de la SAQ cette année versus l'an dernier, il y a une perte de revenus d'environ 22 millions de dollars. Donc, on se demande, par exemple, d'où vient cette perte de revenus-là? Là, la SAQ dit c'est parce que les Québécois boivent moins d'alcool. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on a aussi 27 millions de dollars de produits qui dorment et qu'on refuse de vendre puis qu'on dépense de l'argent pour s'empêcher de le vendre.
Mais c'est capoté parce que met l'exercice à l'envers. Les Américains qui boycottent les produits québécois de zéro, comme on le fait, là, on ferait mal à notre... Tiens, les Américains pourraient nous écraser. Là. Je veux dire, on n'est pas gros par rapport à eux autres. Là.
Ben c'est ça. À la fin de la journée, il faut se demander est-ce que ça a vraiment donné quelque chose, cette mesure-là. Il faut quand même dire que ça ne vient pas de la SAQ directement. Mais
c'est politique. C'est François Legault. Là.
Exact. Puis Éric Girard, son ministre des Finances, lui aussi, c'est pas mal lui qui colle la chute là-dessus. Donc, il n'est pas trop tard pour eux pour faire preuve d'un peu de gros bon sens et de juste dire, écoutez, cette notion-là de ces boycotts-là n'ont pas été très productifs. Les contre-tarifs qu'on avait mis en place initialement, mais ça, c'est surtout le fédéral, ils ont tous sauf été productifs. Ça a augmenté les prix pour à peu près tout le monde. Donc, finalement, peut-être que la meilleure solution, c'est d'aller à la table de négociation puis d'avoir une bonne entente de libre-échange plutôt que d'espérer que le boycott va faire mal. Parce que, on nous a sorti des réactions de certains politiciens ou certains intervenants américains par rapport à ça, en disant, bon, on est affecté, on trouve ça dommage que les Québécois viennent plus nous voir, mais je peux comprendre que certains individus vont dire ça, mais dans l'ensemble, les Américains n'ont pas été ébranlés par cette stratégie-là, mais nous, bon, on a perdu des revenus. Donc,
on s'est fait mal nous-mêmes, ben ouais, on s'est fait mal nous-mêmes avec ça. Il y a peut-être des leçons à prendre éventuellement pour nos politiciens. Les politicos comme ça, là, faire des coups d'éclat, mais après ça, quand c'est l'heure des comptes, mais tu vois, Legault n'est même plus là. Fait qu'il n'est même pas là pour répondre aux questions. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, toujours un plaisir. On se reparle. Salut.
Toujours un plaisir. À bientôt.
Bye-bye. Merci. Voilà. C'est pas un gros move brillant, là.
Ben, comme beaucoup des moves du gouvernement, là. En tout cas du gouvernement Legault des dernières années.
Ben oui. On les avait allés, là.
Je me rappelle pas de la dernière fois qu'on a dit « Ah, oh, wow, ça, c'était un bon coup. »
Hey, ça, c'est pas pire, ça. C'est, on l'a eu, là.
C'est que du niaisage puis des idées drivées par la vertu et une idéologie.
De bien paraître tout le temps.
Tout le temps, la bien-pensance. Ouais. On a gouverné au fil des sondages pendant toutes ces années-là. Même si on disait qu'on le faisait pas, puis que c'était juste dans la dernière année, là, ça a été tout le long au fil des sondages.
Puis garde, là, l'autre affaire, le consigne-action, là. On parle d'espèces d'initiatives qu'ils ont pris. Là. Au final, là, consigne action, un, ça marche pas. Deux, comment ça va finir? Là? C'est le bordel total. Là. Il y a des centres de consignes. Ça marche pas.
Les Ontariens qui viennent faire la pièce
tout
avec
croche.
Une canette.
Il devait avoir 400 centres. Là. Il y en a 120, 130 à peu près là, de mémoire. Et tu as des places. Écoute, le monde, il laisse le sac rempli de bouteilles, de canettes. Il n'y a rien qui fonctionne.
Pourquoi changer quelque chose qui allait déjà correct?
Et ça, là-dedans, il y a un 2 cents de plus hein, que tu payes sur tes... T'as le 10 cents de consigne, mais t'as un 2 cents de frais cachés.
Qu'on paye en plus.
Oui.
Fait qu'on paye 12 cents pour en avoir 10.
Autrement dit, c'est ça. Ben, le 2 cents, tu le payes, c'est pour le réseau. Là. C'est pour consigne action. Il y a 5 milliards de produits vendus à chaque année. Ils ramassent 2 cents sur 5 milliards. Ça fait 100 millions par année, ça, qui se met dans les poches.
On les remercie.
Mais ça, là, il va payer son réseau comme ça. Et là, on va avoir des gens syndiqués éventuellement dans les consignes actions. 22, 23, 24 pièces de l'heure.
Syndicat des ramasseux de canettes du Québec.
Exact. Voilà. Hey, après la pause, François Charon n'est pas là, mais on parle avec quelqu'un de l'équipe de François Charon et on va jaser techno.
Couture dans le mid. Radio. X.